toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
On dit généralement qu'on n'est jamais aussi universel que quand on décrit une situation très spécifique, très ancrée dans une réalité. Notre invité du jour ne cesse de filmer son pays, le Tchad, depuis plus de 20 ans, tout en touchant au cœur de préoccupations humaines totalement globales. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Son nouveau film s'intitule Lingui, les liens sacrés. Il vient de sortir en salle en France. Bonjour Mahamat Saleh Haroun.
Bonjour.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans tous les cinémas du monde. Cette fois, vous donnez le premier rôle aux femmes. Amina élève seule sa fille de 15 ans, Maria N'Djamena, jusqu'à ce que la mère célibataire apprenne la grossesse de sa fille, une grossesse non désirée. Mais actuellement, au Tchad, comme dans de nombreux pays dans le monde, l'avortement est proscrit et par la loi et par la tradition et la religion. Mahamat Saleh Haroun, vous avez accepté de nous en commenter les 15 premières minutes, ce qu'on appelle nous la première bobine, l'occasion de parler de vos choix de mise en scène, les choix de mise en scène de votre 9e long métrage. À l'affiche également de notre cinéma ce samedi, une autre relation parent-enfant. Là, c'est un père qui élève seul son fils de 4 ans. Atteint d'un cancer, le père va choisir la famille qui va pouvoir accueillir son petit garçon. Ce sujet hautement mélodramatique donne un film très retenu même, un endroit comme un autre. Et puis nous feuilletterons avec vous, Elisabeth, le journal du cinéma de la semaine. Mais tout d'abord, chose promise, chose due, les premières minutes de Lingui, la première bobine avec vous, Mahamat Saleh Haroun. Le film commence avec les crédits. Sur fond noir, une discrète bande-son de bruit de la rue, hein, le bruit du quotidien. Puis ces notes électriques et le visage en gros plan hein, d'une femme en train de travailler. La sueur coule sur son visage. Elle a un piercing à la narine droite. Elle coupe quelque chose, elle affûte son couteau, c'est des gros plans hein, sur les mains. On comprend qu'elle essaye de retirer la jante, elle essaye de retirer quelque chose, un énorme pneu.
Et l'armature en fait, en fer dans le pneu qui entoure, qui fait le cercle comme ça.
Et il y a des gros plans sur ses mains, hein, protégés par des gants rouges. On voit que c'est un travail de force. Ça dure vraiment, je ne sais pas, presque une ou deux minutes, Mahamat Saleh Haroun. Il y a presque un plaisir de regarder le travail à l'œuvre.
Oui, j'aime beaucoup le travail à l'œuvre en fait et le filmer parce que ça ancre dans une réalité, ça rapproche en fait tout le monde. C'est une expérience que tout le monde a de ce travail manuel là et j'ai beaucoup d'affection en fait pour le travail manuel parce que dans ma jeunesse j'ai été ouvrier très tôt, à 14 ans. J'ai travaillé dans une usine tenue par un Libanais. Pendant les vacances, pour gagner, pour être indépendant, tout simplement. C'est pas que mes parents n'avaient pas les moyens, mais je voulais vraiment moi-même avoir ce sentiment de gagner de l'argent par mes propres mains. Donc j'ai été ouvrier, j'ai côtoyé un milieu ouvrier. Puis après, en Libye, quand je me suis retrouvé là-bas pendant un an, j'ai été aussi ouvrier. Donc moi, je viens de cette classe-là et j'ai beaucoup d'affection pour les gens qui se tuent au travail comme ça pour gagner leur vie. Il y en a d'autres qui regardent juste un ordinateur et tout se passe là et qui gagnent des millions. Grand bien leur fasse, mais moi j'ai beaucoup d'appétence, beaucoup de respect pour ces gens qui sont la majorité. Et à travers cette première séquence, je voulais montrer la réalité de cette femme. Sa détermination, en fait, faire une sorte de caractériser ce personnage dans le silence, tout simplement par ce qu'elle fait, quoi, et cette volonté.
Donc, cette femme, elle décolle donc un fil d'acier du cerceau rigide, puis il y a une rupture son, et la caméra va la filmer en plongée, où elle travaille un objet avec ce fil souple. Alors, on a presque l'impression qu'elle fait une œuvre d'art. En fait, elle fait passer le fil, alors je ne sais pas, c'est à décrire. Oui. Elle fait passer le fil devant, derrière des tiges rigides qui sont disposées en quinconce.
Oui.
Elle tresse, en fait.
C'est voilà. Ça, ouais, c'est du tressage. Et puis, il y a un travelling vertical. Et on voit au fond des objets comme... Alors, c'est comme des grands abat-jours. Enfin, moi, c'est comme ça que ça, ouais. Ça m'inspire. Hein, mais ce n'est ouais. Pas ça. Ce ne sont pas des abat-jours. Ça ressemble à des abat-jours renversés. C'est quoi ?
Voilà, ça ressemble à des abat-jours inversés. D'autres trouvent que ça ressemble à des paniers. En fait, c'est des fourneaux. C'est des fourneaux qu'on utilise au quotidien, mais vraiment beaucoup au Tchad. On y met du charbon de bois et puis ça permet de cuisiner, de faire des barbecues. Enfin, ce travail qu'elle fait, c'est un travail d'homme. Je l'ai voulu exprès qu'elle le fasse, donc elle a pris des cours à soir. Et je voulais une femme qui vit au présent, en fait, et au contact de la population, comme ça, de ce qui se passe autour d'elle, même si elle se trouve à la marge un peu. Voilà.
Donc là, cette femme sort, hein, on entend les bruits de la rue, elle a des objets aux mains et surtout sur la tête. Elle est magnifique parce qu'on a l'impression que c'est une créature de Jean-Paul Gaultier. Enfin, c'est très, très graphique. Bon, alors qu'en fait, la pauvre, on imagine que c'est très lourd et que voilà, c'est son dur labeur. On la suit le long du fleuve. C'est un plan très large. Et voilà. Là, on entend une personne qui la haine. On sait donc que votre héroïne s'appelle Amina. Et elles vont tous les deux vendre dans la rue.
Oui. J'ai voulu donc la caractériser avec cette première séquence. Après ce travail, mais il y a toujours de la beauté. Et c'est vrai que ces canouns, c'est comme ça qu'on les appelle au Tchad, ces fourneaux apportent quelque chose, enfin une verticalité comme ça que j'aime bien. Et en effet, quand il y a une autre scène où elles sont toutes les deux comme ça, et ça fait... quelque chose de très asiatique. J'y avais pas pensé en écrivant, mais sur le moment, quand on a posé ça, ben oui, tout de suite, il y a eu des références. Et je voulais, par son amie, là, avec laquelle elle travaille, qu'on la présente, en fait.
Alors voilà. Ensuite, elles vont se parler, Amina et Bintou, elles vont se parler en français, mais dans un premier temps, elles se parlent dans une autre langue. Oui. C'est de l'arabo-tchadien,
c'est
ça ?
Oui, c'est de l'arabo-tchadien, oui. Et le fait est que en réalité, dans ces États africains, ils sont nombreux, mais au Tchad en particulier, il y a plusieurs communautés et tout le monde ne parle pas arabe. Moi, j'ai beaucoup d'amis tchadiens et qui ne parlent pas l'arabe, en fait. Donc, le seul moyen de communiquer à un moment, c'est le français. Donc ça, c'est une forme d'évidence et à un moment, il faut aussi l'assumer parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rétifs à tout leur présent, en fait, et qui sont toujours en train d'attaquer le passé. Mais en réalité, il y a des Tchadiens qui ne peuvent communiquer que parce qu'il y a la langue française. Bintou, elle est en vrai, ne parle pas vraiment l'arabe tchadien.
Et, vous voulez dire la comédienne ?
La comédienne, oui, voilà, ne parle pas l'arabe tchadien. Elle n'est pas contente de l'arabe voilà, qu'elle utilise et qu'elle baragouine un peu, voilà. Donc voilà, c'est. Mais c'est aussi, je pense, il y a une volonté chez ces deux femmes-là d'aller un peu, de s'accrocher en fait à cette vie sociale, parce que le français c'est aussi ça en fait. Et Amina parle français avec sa fille, c'est comme si elle voulait en fait la projeter vers le haut et qu'il fallait pas qu'elle tombe dans cette situation dans laquelle elle se trouve. C'est vraiment une sorte de voilà, je te pousse, c'est la langue de la réussite sociale, etc. C'est la langue de l'éducation et il faut pas qu'on perde cela. Donc c'est le seul espace qui lui reste en fait. Cette femme qui est exclue de tout, c'est le seul espace qui la lie à sa famille, qui, elle, est très aisée, comme on le verra plus tard avec sa sœur.
Amina, t'es qu'elle venait ?
Alors, Amina rentre Amina. Chez elle, on est extérieur, début de nuit.
Ça a été le lycée ?
Et puis, c'est une mère qui va poser les questions que toutes les mères posent à leurs filles adolescentes. Ça a été le lycée.
J'ai acheté des criquets. Tu en veux ?
Elle a acheté des criquets, donc ça, en revanche, ça, on ne l'a pas partout. Partout ailleurs, mais la jeune fille est renfrognée, elle est sous ses écouteurs. Une adolescente comme une autre.
Oui, voilà, comme une autre, absolument. Boudeuse, et on se dit que c'est juste le caractère universel de tous les ados du monde. Mais en réalité, ça cache autre chose, elle a un problème beaucoup plus sérieux. Et la mère qui ramène des criquets, les criquets, vous savez, c'est elles n'en mangent pas parce que elles n'ont pas les moyens. Les criquets, c'est des insectes saisonniers qui ont le goût de la crevette. Et pendant la saison des pluies ou pendant après la saison des pluies, on utilise pas mal les criquets. C'est vendu dans la rue, c'est très très prisé. C'est pour l'apéritif, enfin tout ça. Et donc voilà, il y a des gens qui pourraient ou avoir compris qu'elles étaient tellement pauvres qu'elles mangeaient des criquets. Mais les criquets sont un luxe parce que c'est très saisonnier, ça arrive et les gens adorent ça. Donc voilà, et elle l'a apporté pour sa fille parce que tout simplement, je pense que sa fille adore les criquets.
Qu'est-ce qu'il y a, ma fille?
Laisse-moi, je suis fatiguée, je veux dormir, maman.
Tu veux pas dîner?
Non.
Scène d'intérieur, on entend les bruits de la nuit. La jeune fille suspend la moustiquaire et s'assied sur le lit. Manifestement, elle est préoccupée. Mais sa mère essaie de lui parler, mais elle se heurte en fait au mutisme de sa fille.
Oui, silence de sa fille qui ne sait pas comment en fait parler avec sa mère de ce sujet qui l'obsède, qui la hante en fait de cette souillure.
Mais à ce stade du film, on ne sait pas encore. On ne sait même pas que la jeune fille est enceinte. On sait voilà. Qu'elle a un problème.
C'est vrai.
Donc on peut se douter que... Et on sait aussi qu'il n'y a pas d'homme dans ce foyer.
Voilà.
Que ce sont deux femmes ensemble. Séquence suivante, on est là pour le coup extérieur jour. La mère marche d'un pas décidé. Alors... on est dans une casse, une décharge, enfin, je sais pas, il y a des gros bidons. Et là, elle va voir Brahim. Donc manifestement, ces deux-là se connaissent, ils se sourient. Il y a un très beau travail sur le cadre, Mohamed Saleh Haroun. Hein. Lui, il est filmé de dos, enfin, il est plutôt à la droite du cadre. Elle est face à nous. Et au second plan, flou, les ouvriers qui s'affairent. Là, c'est un travail de peintre presque. Hein. Vous composez, il y a vraiment un travail très pensé sur le cadre.
Oui, tout à fait, oui, parce que j'aime bien ce lieu-là qui est... une sorte de zone en fait dévolue aux ferrailleurs. C'est des gens qui font de la récupération, qui créent des arrosoirs, qui inventent plein de choses. Et je me dis que c'est cette marge-là en fait qui fait vivre, qui apporte un souffle nouveau parce que beaucoup de gens viennent se servir là, achètent des ustensiles qu'ils ne peuvent pas se payer dans les supermarchés. Et c'est cette inventivité à l'œuvre que j'ai voulu un peu... filmer, c'est ça, quelque chose de beau. Encore une fois, des gens qui travaillent, quoi, des ouvriers qui sont au travail.
Alors, il lui parle de sa fille, Maria. Elle vient lui rendre, Amina, elle vient lui rendre l'argent qu'il avait prêté. Il lui prend la main et il lui dit qu'il veut lui parler en privé. On sent qu'elle est réticente, hein, mais tout est très doux, hein, mais on sent qu'elle est réticente. Il tire sur le pagne. C'est une violence, mais enfin, que nous, spectateurs et spectatrices, on ressent très fort, mais qui n'est pas du tout poussée, enfin, qui est très retenue. Elle rit, on sent que c'est de la gêne. Plan suivant, ainsi tous les deux, il lui propose le mariage. Là, on comprend, on apprend qu'ils se connaissent depuis 10 ans et qu'ils sont tous deux membres d'une confrérie de l'islam. Alors, c'est quoi ces confréries? C'est pas vraiment une secte, mais c'est quand même assez une société un peu privée.
Enfin, oui, c'est une confrérie, c'est une sorte de... C'est pas vraiment... Elle peut être sectaire, hein, on pourrait l'appeler comme une secte, mais c'est une communauté qui appartient en fait ou qui est dirigée par un imam à laquelle on appartient tous les deux parce que voilà, on suit les enseignements de cet imam-là. Et cela fait de vous en fait des frères et des sœurs. Et lui estime que en fait, c'est les meilleurs mariages quand on est frère et sœur de confrérie. Voilà, on suit le même enseignement, une même philosophie, une même vision. On pourrait faire couple ensemble, mais à ce moment-là, en fait, son objet, c'est peut-être d'avoir et la mère et la fille sous le même toit.
Et puis vous, c'est vraiment une séquence, ce dialogue, où vous changez de cadre, Haroun. De temps en temps, on les a tous les deux face à nous. Et à un autre moment, il y a un changement d'axe où on est derrière parce qu'elle se retourne. Dans ce dialogue, ce qui se joue, c'est que Amida demande à deux reprises à Brahim, mais est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Et lui, ce qu'il lui répond, il ne lui répond pas en fait. Il change. Il lui dit, mais tout le monde te considère mal parce que tu es fille mère. Là, la caméra bascule. Et il rajoute, moi je m'en fous, je vous aimerais toutes les deux, ta fille et toi. Donc là, ce que vous laissiez sous-entendre, Haroun, c'est qu'il veut effectivement les deux. Votre mise en scène, en fait, suggère qu'Amina, elle est cernée.
Oui.
C'est ça le, voilà. L'intention
oui,
des changements de cadre.
Oui, elle est cernée et il y a, oui, quelque chose comme une toile, en fait. Et je voulais travailler ça comme, en fait, une souris, un chat. Et il y a la souris qui ne sait pas comment s'en sortir et qui lui pose cette question qui est assez naïve, mais en même temps sincère, c'est de connaître réellement, parce qu'elle n'est pas dupe, en réalité, du fait que... beaucoup de, et ça j'en connais parce que en tant que cinéaste je parle avec beaucoup de femmes et j'en connais beaucoup, des copines et tout, et quand certains hommes ne peuvent pas en fait tout simplement draguer, ils vont jusqu'à épouser une femme histoire tout simplement en fait d'avoir cette copulation qu'ils ne peuvent pas avoir autrement, et puis après 3 mois, 4 mois eh bien, il la répudie. C'est vraiment, c'est très, très violent. Et j'en connais mais des exemples à n'en plus finir. Et elle n'est pas dupe de cela. En réalité, ce mariage, c'est juste pour valider, une sorte de
concupiscence.
Voilà, oui, c'est de la concupiscence, oui. Oui. Et donc, je voulais ce malaise et cette espèce de toile d'araignée qu'il tisse un peu autour d'elle. Et la mise en scène essaye de montrer tout cela, mais visiblement, vous l'avez vu comme tel. Donc,
ça fonctionne.
Et ce qui est violent, c'est que vous parliez du chat et de la souris, mais en fait, la souris ne sait pas encore à quel point elle est piégée par le chat, et pas seulement d'ailleurs par le chat.
Voilà, elle ne sait pas jusqu'à quel point elle est piégée, et c'est pour ça qu'elle essaye de trouver en fait la vérité, le chemin, en fait, cette lumière. Est-ce que vous m'aimez? Enfin, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Parce que ça pourrait au moins lui permettre en fait de voir clair, mais là elle est complètement dans le flou et quelque chose se joue qui la dépasse un peu, mais elle reste droite quand même, c'est ça qui est formidable et c'est ça qui lui permet peut-être de s'échapper de ce guet-apens en quelque sorte.
La séquence qui suit la séquence avec les ferrailleurs, hein, donc c'est la nuit, il y a un travelling latéral à l'extérieur d'une salle de prière, il y a des hommes agenouillés qui suivent un imam, mais la caméra elle suit un mouvement oblique et elle nous montre qu'Amina prie sur son tapis à l'extérieur de la salle. Donc effectivement, cette idée que certes elle fait partie d'une confrérie, mais elle n'est quand même pas totalement insérée. Elle attend que les fidèles sortent et l'imam va lui demander pourquoi elle n'est pas venue à la prière du matin.
Amina.
Bon, elle répond... voilà, elle est fatiguée. Bon, là, elle va se faire sermonner. Alors, cette séquence, elle montre bien, il y a plusieurs choses qui se jouent. Il y a évidemment le rapport avec l'imam et puis il y a le rapport de nouveau avec Brahim qui va lui courir après. Mm-hmm. C'est vraiment, pour rebondir sur ce que disait Elisabeth, c'est effectivement, il n'y a pas qu'un chat, mais
voilà.
il y
en a plusieurs.
Il y en a plusieurs.
Oui, il y en a plusieurs, oui. Et je voulais... vraiment montrer comment elle est cernée de partout par un pouvoir patriarcal d'un côté, il y a quelque chose de traditionnel, un pouvoir religieux, et elle est cernée, c'est vraiment le bon terme, et cette séquence suit la précédente, et là je développe un peu plus, c'est-à-dire qu'elle fait partie d'une confrérie, c'est illustré, elle fait partie de cette communauté, mais elle est considérée comme quelqu'un de seconde zone et qui doit être sous l'influence ou sous l'emprise de ceux qui sont en fait en première classe, on va dire, un peu. Hein, voilà. Et donc, on se permet quelque chose, c'est des injonctions pour en fait toujours la soumettre parce qu'on sait qu'elle est fragile et que par conséquent, c'est une proie parce qu'elle est seule, parce qu'elle n'a pas d'homme. On a été élevé dans le fait qu'en tant que femme, on ne peut pas rester toute seule, il nous faut un homme. Donc elle est complètement cernée par que je voulais montrer un peu tout ça, quoi. Et petit à petit, ça monte et comment elle se libère par la suite quand même de tout ça, quoi.
Non, non. Amita.
Voilà, là on est rentré à la maison, on entend Maria qui se débat dans son sommeil, elle a fait un cauchemar. Alors une fois de plus, Amina vient la voir, essaie de de discuter avec elle. La jeune fille, elle est un peu terrée, comme un animal apeuré au fond de son lit.
Qu'est-ce qui ne va pas ?
Voilà, Amina essaie de lui parler.
Oh, ma fille.
Mais non, rien ne vient.
Regarde, c'est vous, ta maman ?
Non, rien ne vient parce qu'on est face à l'indicible. Il m'est arrivé de connaître aussi, en fait, des jeunes filles qui sont tombées enceintes hors mariage et c'est très, très dur, en fait. C'est vraiment très, très dur. Comment partager, en fait, cette souffrance-là ? C'est comment partager cette souillure avec quelqu'un ? Comment reconnaître les siens ? C'est-à-dire quelqu'un qui peut vous écouter. C'est ça le drame de Maria. À ce moment-là, elle doute même que sa mère puisse l'écouter et la croire.
Et nous, spectateurs, on ne sait toujours pas, en fait.
Non.
On ne sait toujours pas, même si, bon, on se doute. On ne saura qu'avec la séquence suivante, et on arrêtera, c'est là où nous allons arrêter notre première bobine, la séquence suivante où la mère, comme une détective, suit sa fille qui va partir à l'école. Et en fait, elle se rend compte que sa fille ne va pas à l'école, elle va voir la directrice, et c'est la directrice qui lui dit.
Désolée de vous l'apprendre comme ça, mais Maria est enceinte.
Et qu'en plus, donc...
Je l'ai renvoyé.
Il y a deux effets.
Beaucoup de filles tombent enceintes en ce moment et c'est pas bon pour notre image. Désolée.
Maria est enceinte et elle est renvoyée de l'école.
Oui, double information.
La double peine aussi.
Oui, ouais, tout à fait, la double peine. Quoi.
Et ça c'est d'autant plus dur que c'est dit par une femme.
Absolument.
La directrice ?
Oui, oui. J'ai voulu, au départ, en fait, ça devait être un homme, et puis je me suis dit qu'il fallait mettre une femme, et c'est beaucoup plus violent, justement, et l'actrice, elle a aussi ce côté très dur, comme ça, quand elle, Leila Ngam, qui joue le rôle de la directrice. Et oui, ça commence là, en fait. Le rejet commence déjà, cette exclusion de l'école. C'est la fin de quelque chose, en réalité, dans le parcours de Maria. Et à partir de ce moment-là, sa mère se trouve un peu, et c'est vertigineux, parce qu'il faut essayer de trouver des solutions, sachant que c'est interdit, et qu'elle-même n'est pas prête, puisqu'elle croit à un certain dogme, une religion qui l'empêche, en fait, tout simplement, de penser autrement cette question-là et de sortir du droit chemin.
On arrête là, Mamad Saleh Haroun, la première bobine. Je pense qu'on aura suffisamment donné envie à nos spectateurs d'aller voir Lingui, d'aller découvrir la suite, même si nous allons en parler juste après une pause musicale. Le choix de notre réalisatrice Fanny Renard, qui se porte cette semaine sur ce nouveau titre du duo IBI, Made of Gold.
Make sure them hear us, feel it. We are the anger and the hunger. Make sure them hear us, feel it. We are the anger and the hunger.
Holy water, crying at the altar. Ignite your desire. Freedom from the mind. We
them passion. Your history walk through them golden lines. Your blood carries diamond. When they fought, they cleared that spirit away. We are the reincarnation.
My spell made up. Would work your mouth against this magic of mine. It has been handed down in an unbroken line.
Vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes en compagnie de Mahamat Saleh Haroun pour parler de Lingi, les liens sacrés. Alors, nous venons de parler du début du film. Pour l'instant, il n'a pas été question de Lingi. D'ailleurs, je ne me souviens plus si le terme même, s'il me semble qu'il est prononcé, c'est quoi le Lingi?
Le Lingi, il est prononcé quand la sœur vient voir
Amina.
Amina. Et le Lingi, en fait, c'est un précepte qui est très important et il tombe vraiment à point nommé aujourd'hui au Tchad parce que on est quand même pas mal fragmenté comme ça. On a l'impression d'avoir affaire à un archipel. D'ailleurs, il y a un processus de dialogue national, tout ça, c'est dire qu'il y a des divisions. Et le Lingi, c'est un précepte du vivre ensemble qui consiste à dire qu'il faut prendre soin les uns des autres, qu'il faut être solidaire, qu'il faut être à l'écoute un peu pour fermer communauté, pour faire communauté, pour partager le même espace. Il y a une loyauté à avoir les uns envers les autres et que cette philosophie de vie permet en fait la cohésion de la société et permet aussi la gestion d'éventuels conflits. Et dès lors qu'il y a rupture du Lingi, il y a fatalement conflit, il y a drame, et il y a, tragédie même. Donc c'est un peu ça le Lingi.
Et là, le Lingi, dans votre film, Mahamat Saleh Haroun, on le voit uniquement entre les femmes, mais d'une manière magnifique. Alors sans vouloir dévoiler, il y a une sorte de... C'est comme s'il y avait une société secrète des femmes.
Oui.
Qui s'entraident parce qu'elles savent que de toute façon, non seulement les hommes ne vont pas les aider, mais qu'au contraire, ils sont en général plutôt la source de leurs problèmes. Et c'est magnifique, cette idée qu'il y a toute une société souterraine d'entraide entre les femmes.
Oui, il y a une société de presque, je dirais, des gens qui sont en fait dominés, qui n'ont pas voix au chapitre, qui ne font pas le spectacle, qui ne sont pas sur scène, mais qui essayent de résister pour que continuer en fait à survivre. Et moi, ce qui est vraiment admirable et respectable dans ce que font les femmes au Tchad, c'est comment elles inscrivent tout ce travail-là sur le long terme. Et tout ce qui est envisagé sur le long terme est fatalement gagnant parce qu'il s'inscrit dans une éternité. Donc il y a une transmission de cette espèce de solidarité entre les femmes. C'est comme ça que sont nés, par exemple, ce qu'on appelle le paré au Tchad, c'est-à-dire des tontines qui n'existent que chez les femmes. Elles cotisent genre 10 euros par mois, elles sont 15, 20, elles peuvent être 100. Et l'argent récolté est donné à l'une d'entre elles et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'elles arrivent à gérer des foyers pendant que les hommes... Si vous connaissez le Tchad, en fait, on est assis sur des bancs ou sur des nattes, on joue aux cartes, on joue à un autre jeu qui s'appelle le Dali, on converse, c'est ce que j'appelle les cures reptiles, c'est le titre de mon prochain roman qui paraît en janvier.
Les
cures reptiles, c'est-à-dire des gens qui font une vie de reptiliens mais qui ne restent pas à la maison, qui sont tous dehors quand vous allez au Tchad. Tous les hommes sont là, à des endroits assis.
Les cul posés, quoi.
Voilà, les cul posés. Et donc, c'est les femmes qui s'occupent en fait de trouver à manger, de préparer à manger, d'éduquer les enfants. Et ces femmes-là, pour moi, en fait, c'est elles qui tiennent la maison. Et elles sont solidaires Et ça, je l'ai vu et je l'ai vécu, mais vraiment plusieurs fois. À chaque fois que je me suis retrouvé avec ma mère, j'ai vu des femmes venir là et j'ai vu la solidarité à l'œuvre comme ça.
Mais du coup, vous y avez été particulièrement sensible, vous y avez été initié, parce qu'après tout, on pourrait se dire que tout, comme vous, tous les hommes ont une mère. Ouais. Beaucoup ont une femme ou une sœur, mais ils ne prêtent pas forcément attention. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que vous, c'est votre sensibilité, vous avez été particulièrement attentif à tous ces signaux?
Oui, parce que je suis entouré vraiment de femmes. J'ai 4 sœurs. J'ai été élevé par ma grand-mère, qui était une femme à fort caractère, comme ça, qui a connu un seul homme, mon grand-père, qui a divorcé dans les années 40 quelques, qui ne s'est jamais remarié et qui n'a jamais eu d'enfant. Et je me dis, jusqu'à sa mort, et je me dis comment elle a fait dans ce pays où il suffit de se retrouver toute seule dans un coin pour qu'un homme vous saute dessus et tout. Donc voilà, c'est ces femmes-là qui m'ont élevé. Moi, quand j'étais petit, j'étais l'aîné de la famille, je suis l'aîné de la famille. Ma mère m'a appris à cuisiner, je me mettais à côté d'elle. Je me souviens même une fois que ce qu'on appelle la boule au Tchad, une sorte de polenta là, m'est tombée en fait, ça m'a brûlé sur le doigt comme ça. Enfin ça, c'est un souvenir du rapport que j'entretiens avec ma mère. Et c'est comme ça que...
J'espère que vous avez recommencé à faire la cuisine après.
Ah oui, oui, bien sûr. Oui, non. Et là, je continue d'ailleurs. j'adore ça. Donc oui, c'est comme ça que j'ai découvert ce milieu de femmes. Et je voulais leur rendre hommage un peu, quoi. Je voulais rendre hommage à toutes ces héroïnes du quotidien. Et j'ai eu 2 exemples qui m'ont beaucoup touché, où je voyais cette solidarité à l'œuvre. Déjà pour mon premier court-métrage, Maral Tanier. Il y a une femme qui est passée à la maison, une tante lointaine et tout. Et j'étais assis avec ma mère sur la terrasse. Elle est arrivée après les salutations. Elle a exposé son problème. Et c'était que sa fille voulait divorcer. Mais dans un mariage musulman, impossible. Donc il fallait qu'on rembourse la dot pour qu'elle se libère. Et cette femme était venue juste demander à ma mère, en fait, elle faisait une quête, elle demandait une aide, et ma mère a dit, oui, bien sûr. Elle est entrée dans la chambre, elle est ressortie, elle lui a donné quelques billets, et elle a fait le tour des femmes. Elle ne parlait pas aux hommes, en fait. Elle s'adressait, mon père, elle n'allait pas voir mon père. Et elle a vu des femmes, et elles ont cotisé, et elles ont ramené cette dot-là. Et la fille a pu être libérée.
C'est comme si elle devait racheter sa fille, en fait.
Voilà, c'est racheter sa fille.
À l'autre famille.
Voilà. Et l'autre exemple, c'est une femme tchadienne mariée à un Malien et avec 4 enfants. Et le mari a voulu partir chez lui, enfin en vacances. Il a pris la route et il est mort sur la route. On les appelle, voilà, il est décédé. Et chez les musulmans, on l'a enterré, on ne sait pas où, entre le Cameroun, le machin, sur la route. Plus de nouvelles et tout. Et cette femme vient voir ma mère et tout. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a, avec ses enfants, ils ramassent tout simplement les sacs, les sachets en plastique dans la rue. Et elle tisse des cordes. Et avec ça, les enfants vont à l'école. Et ma mère me dit, écoute, les impôts, la zakat qui est donc l'impôt musulman, elle me dit, je te donne à cette femme-là. Ta part, est-ce que tu es d'accord? J'ai dit, bien sûr que je suis d'accord. Voilà comment, en fait, sans parler à des hommes, elle sait que voilà, c'est une femme comme elle et elle comprend sa situation. Et cette solidarité à l'œuvre, elle est vraiment au quotidien, je la vois. Notamment avec mes sœurs, j'en ai 4. Je peux vous dire que oui, je vois comment elle procède. Ouais, ouais.
Merci Mahamat Saleh Haroun. Vous restez avec nous? On va parler des autres actualités du cinéma juste après Dominique Fils-Aimé, While We Wait. And the c'est le moment du journal du cinéma avec vous, Elisabeth Lequéré. Et là, vous nous emmenez en Arabie Saoudite, à Jeddah.
Oui, l'Arabie Saoudite qui, moins de 4 ans après avoir levé la fameuse interdiction frappant le cinéma, entend désormais dérouler le tapis rouge aux stars du grand écran avec le Red Sea Festival, donc festival de la mer rouge, qui se déroule en ce moment même. 138 longs et courts-métrages en provenance de 67 pays, alors arabes mais pas seulement, avec un hommage spécial rendu cette année à la réalisatrice, bon, la seule réalisatrice saoudienne, Haifa Al-Mansour. Alors voilà, un extrait du dernier film d'Haifa Al-Mansour, The Perfect Candidate. Alors on aimerait bien quand même être une petite souris au moment où les films suggérés par la direction artistique se confrontent au comité de censure saoudien. Voilà, quoi qu'il en soit, une chose est sûre, Sophie, l'Arabie Saoudite c'est décisivement lancé dans la bataille du soft power.
Tu sais quoi, on sert à rien. On sert plus à rien. Les habitants des quartiers, ils ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini.
Arrête-toi,
discute.
Individu en fuite.
Tu serais qui, toi? Tu serais pas ton insigne? Tu serais quoi? Tu serais rien.
Si vous êtes un acteur noir ou arabe, vous avez 3 fois plus de chances, enfin, ou de risques, on va dire plutôt, d'interpréter un criminel ou un délinquant, et 2 fois plus de mourir à l'écran.
Oui, c'est ce qui ressort d'une étude conduite par le collectif 50-50 qu'on avait reçu il y a un an dans l'émission. Voilà. Selon l'étude, 8 films sur 10 ont un personnage principal blanc, ce qui pose un peu un problème dans la France contemporaine. Et apparemment, c'est encore pire à la télévision, on soulignait les auteurs de cette étude baptisée Sinégalité. Égalité, on voit qu'on en est loin.
Oui, vous acquiescez, Mme Saleh Haroun. C'est vrai que c'est souvent le cas.
Oui, c'est souvent
le cas. Pas dans vos films.
Non, c'est souvent le cas. Mais je pense qu'il faut, travailler. Mais moi, je ne fais pas partie en fait, des gens qui exigent, par exemple, que des cinéastes. On peut très bien comprendre que des cinéastes blancs ne connaissent des noirs que ceux qui lavent les vitrines et ils n'ont pas d'autres connaissances et que du coup ils ne peuvent pas donner une autre représentation que ce qu'ils voient. Maintenant c'est à nous et il y a des cinéastes d'origine africaine, autres, ils n'ont qu'à proposer des histoires et qu'ils nous racontent toutes ces histoires en fait africaines qui existent en France.
Et qu'on verra peut-être aussi sur Canal+, alors c'est le lien vers mon sujet suivant. Canal+, le financeur historique du cinéma en France, et les professionnels ont annoncé être parvenus à un accord sur la chronologie des médias.
Oui, alors la chronologie des médias, terme barbare, mais en gros, c'est ce qui régit les dates auxquelles les films peuvent être diffusés, donc en ligne et à la télévision après leur sortie en France. Voilà. C'est un sujet typiquement français, un sujet hautement inflammable. Donc là, en gros, Canal+, vient de s'engager à garantir son engagement de 600 millions d'euros pour les 3 prochaines années. En échange de quoi il pourra diffuser ses films 6 mois avant leur sortie en salle. Bon, avant c'était 8, donc voilà, il gratte 2 petits mois. Sachant qu'après Canal, bien sûr, il y a les plateformes, donc Netflix, Amazon et compagnie. Donc aujourd'hui, en gros, si je suis Netflix, j'ai 27 mois après Canal+, pour pouvoir diffuser le film. Avant, je ne peux pas. C'est 36 mois avant la sortie en salle. Alors là, c'est la grande inconnue, c'est l'éléphant dans la pièce, parce que les plateformes, bien sûr, elles veulent pouvoir obtenir des films très vite, ça ne les arrange pas du tout, 36 mois. Donc elles veulent 12 mois, voire 6 mois, alors que Canal+, au contraire, dit bah, 36 mois, c'est parfait. Parce que eux, ça les arrange évidemment d'avoir un maximum de temps entre leur sortie, leur diffusion Canal et la diffusion Netflix, Amazon, Disney et compagnie. Voilà, ce qui nous promet donc une belle bataille. Tout ça doit se jouer au premier trimestre 2022. Voilà, date à laquelle tout ce petit monde doit s'accorder. Ça va être chaud, moi je vous le dis.
Et en attendant, les films donc sortent toujours de façon classique et plus ou moins chaotique selon les semaines. Ce mercredi, outre votre film Lingui, Mohamed Saleh Haroun, 16 autres longs-métrages débarquent sur les écrans, dont le West Side Story de Steven Spielberg, Les Tuches 4, comédie familiale attendue depuis plus d'un an. Alors, mis à part Lingui, nous vous recommandons Un endroit comme un autre. C'est une des sorties de la semaine. Un endroit comme un autre d'Uberto Pasolini.
John, your circumstances are exceptional.
John est un laveur de carreaux de 34 ans qui élève seul son petit garçon. Quand le film commence, on le voit rencontrer des familles et l'on comprend que cet homme très calme, taiseux et aimant, cherche le bon foyer pour son enfant car il se sait atteint d'une maladie incurable. L'histoire est poignante, mais le réalisateur Uberto Pasolini choisit de maintenir tout pathos à distance. On ne sait qu'à la fin que le film est inspiré d'une histoire vraie. C'est la première question que je lui ai posée. Comment on transforme ce fait divers en un film si retenu ?
C'est une histoire en théorie très dramatique, mais on a essayé de faire un film qui est bien loin du mélo, bien loin des sentiments forcés. Pour moi, c'est vraiment un portrait d'une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre un père et un fils, très liés, peut-être une relation exclusive. Le père n'a pas vraiment des autres histoires, des autres relations, sauf sa relation avec son fils. Et le fils lui ressemble beaucoup, d'une façon. Il est très solitaire aussi, il est très tranquille, il est très observateur, il est comme ça.
Mais du coup, vous êtes documenté sur cette histoire. Vous avez vu ça dans le journal, vous êtes dit ça serait un incroyable film.
Non, j'ai lu ça dans le journal, mais quand j'ai essayé de redécouvrir quelque chose en plus sur l'histoire et sur les deux personnes centrales de l'histoire, pour des raisons de privacy. J'ai parlé avec les gens du service social qui sont occupés, se sont occupés du cas, mais ils m'ont rien dit. Et alors, effectivement, ça, c'était presque une chose que m'a libéré, m'a donné la chance soit de mettre beaucoup de mes expériences de père dans l'histoire. Bien sûr, j'ai fait plein de recherches, j'ai parlé à plein de monde qui s'occupent d'adoption, qui étaient adoptés ou étaient en train d'adopter. Et bien sûr, j'ai parlé à des gens qui s'occupent des enfants et dans des situations similaires, c'est-à-dire peut-être la perte d'un parent ou d'un grand-parent ou peut-être d'un frère, d'une sœur. Et j'ai essayé de mettre beaucoup de ce que je pense, c'est la paternité, l'être parent, des petites expériences, la vie de tous les jours. C'est un film qui essaye d'être très simple. C'est vraiment comme un portrait d'une vie normale, bouleversée, mais normale.
Et alors, comment vous avez travaillé? Parce que c'est un tout petit garçon. C'est compliqué. Apparemment, il a pas trop de lignes de réplique, mais il fallait que ce soit déjà, j'imagine, un petit garçon très, 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 très calme aussi.
Oui, effectivement, non. Effectivement, la chose étrange, on a eu une chance extraordinaire à trouver notre Daniel Lamont, parce qu'il est un garçon très vivant, très, très plein de vie, plein de d'énergie, etc. Mais il est absolument entré dans le personnage. Et il y a une énorme différence entre Daniel comme garçon et Michael comme personnage, comme personne. Il a travaillé d'une façon extraordinaire avec James Norton, qui joue le père John. Et James a été d'une extraordinaire générosité. C'est-à-dire, il a passé beaucoup de temps avec Daniel avant le tournage. Et il a construit avec Daniel une vraie relation d'amitié. Il y a du vrai affection. Il y a du amour entre les deux maintenant. Ils se parlent toujours encore après 2 ans du tournage. La chose que j'aime de plus du film est effectivement que nous sommes arrivés à mettre sur l'écran une vraie amitié, une vraie relation. Il y a des gens qui m'ont demandé effectivement si les deux acteurs sont effectivement père et fils, parce qu'on croit absolument à cette relation. Et c'est une relation, comment est-ce qu'on dit, attrapée par la caméra d'une façon immédiate et complète. C'est-à-dire qu'on n'a pas construit la relation pendant le montage. On n'a pas fait le travail, un travail de mélanger des plans différents et de construire les scènes comme ça. La majorité des scènes importantes entre père et fils dans notre film sont sur un cadre où les deux sont là tout le temps. C'est-à-dire, c'est la relation est vraie. Ça se passe devant nos yeux dans le moment qu'on l'a tourné.
Donc, une histoire d'amour entre un père et son fils, on pourrait presque dire ça aussi de Lingui, une histoire d'amour entre une mère et sa fille, Mahamat Saleh Haroun, même si les deux films sont très différents. Merci beaucoup, Mahamat Saleh Haroun.
Merci à vous.
On rappelle que Lingui est actuellement à l'affiche en France. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré
et Sophie Torlotin, à la réalisation Fanny Renard.
On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma, pour une émission consacrée à la monteuse André D'Aventure. D'ici là, bonne semaine à tous.
Tous les cinémas du monde sur RFI. Sophie Torlotin, Elisabeth Le Quéré. RFI, la sélection.